Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Ingénieur d'hier et d'aujourd'hui. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Dans le cadre de notre chronique Ingénieur d'hier et d'aujourd'hui, je suis aujourd'hui avec Léandre Pourcelot. Léandre, bonjour.
Bonjour.
Donc tu as un parcours particulièrement riche que tu vas nous raconter, mais commençons par le commencement. Tu nous arrives de Franche-Comté et tu as commencé par un diplôme d'ingénieur électronique à l'INSA de Lyon en 1963. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette école et cette spécialité ?
Bien d'abord, je suis né dans une famille de 10 enfants, donc on n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Et pour moi, c'était important de rentrer dans une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs à l'époque en 4 ans et non pas en 5 ans comme maintenant. Et puis deuxièmement, j'aurais bien aimé faire médecine, mais je me suis dit que le mieux pour moi, c'était encore de trouver un métier d'ingénieur qui me rapprochait de la médecine par la suite. C'était une volonté de départ. Donc l'INSA m'a paru idéal et c'est pour ça que je me suis inscrit dans le domaine de l'électronique. Et en plus, comme j'étais d'origine modeste, il y avait un certain contingent d'élèves qui pouvaient rentrer provenant de la campagne, si je puis dire, et des cultivateurs comme moi.
Alors justement, tu as continué avec des études de médecine, donc tu as réussi à rattraper la filière que tu voulais faire à l'origine.
Absolument. Quand j'ai fini à l'INSA, je suis resté comme enseignant-chercheur en physique pendant 4 ans. Et j'étais pas mal encore en relation, effectivement, avec le monde médical. Et à l'époque, les premières transplantations expérimentales commençaient à se faire sur transplantation cardiaque, transplantation de rein, de foie. Et les chirurgiens avaient besoin d'un système pour mesurer le débit dans les vaisseaux entre le greffon et puis l'individu, enfin l'animal. Et donc, il fallait trouver un débitmètre qui fonctionne avec des tout petits capteurs, qui soient implantables. Enfin, les capteurs implantables, et donc c'était quelque chose d'extrêmement compliqué à l'époque, puisque ça n'existait pas au sens... Donc j'ai proposé à mon patron de thèse de m'occuper de ça avec des ultrasons, et en utilisant le principe d'effet Doppler. J'ai été immédiatement viré, puisqu'il a considéré que faire rebondir des ultrasons sur des globules rouges, il fallait vraiment avoir le moral, surtout avec les moyens de les sensibilités qu'on avait à l'époque, hein. Voilà, donc il m'a dit c'est bon pour l'année, tu restes comme enseignant-chercheur, mais à la fin de l'année, tu changes de labo, tu t'en vas. Voilà, c'était. Donc j'étais obligé de changer de laboratoire au bout d'un an, mais j'avais déjà quelque chose qui commençait à marcher. C'est comme ça que j'ai donc pu développer le premier système vélocimètre ou débitmètre, ça dépend comment on peut l'exprimer, à ultrason, à effet Doppler, applicable en médecine. Et c'est comme ça qu'après, je me suis retrouvé à me rapprocher alors vraiment du monde médical pour commercialiser cet appareil en venant à Tours et en créant avec Delalande un laboratoire pharmaceutique la société Delalande électronique qui a permis la première commercialisation d'un appareil effet Doppler en Europe.
D'accord, alors vas-y, explique-nous un peu ton parcours professionnel ensuite.
Mais après, je me suis retrouvé donc ici au CHU de Tours. Et à la faculté de médecine, donc c'était un plongeon dans un monde inconnu. Et donc je me suis trouvé comme enseignant, d'une part de la biophysique, et d'autre part de travail hospitalier, n'étant pas médecin, mais en faisant de l'échographie avec les appareils de l'époque, c'est-à-dire des appareils encore à tubes et à balayage manuel, et puis de l'appareil à effet Doppler que j'avais développé, qui a permis de faire de gros progrès dans le domaine d'exploration cardiovasculaire. Voilà, et c'est comme ça que j'ai dit au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse médecine quand même. Et donc on s'est regroupé à plusieurs physiciens et ingénieurs, on était 5, et on a fait médecine ensemble, la nuit et le dimanche, en plus de notre activité tous les jours. Et dedans, il y avait entre autres quelqu'un qui aurait dû être prix Nobel il y a 3 ans, qui s'appelle Philippe Maupa, qui est l'inventeur des vaccins contre l'hépatite B, qui s'est tué malheureusement à son retour de vaccination au Sénégal. Et donc c'était vraiment un frère quasiment qui a disparu et avec lequel on travaillait beaucoup ensemble. Voilà un petit peu. Alors après, c'est la carrière classique de hôpital ou universitaire, c'est-à-dire qu'il faut passer des concours pour... D'abord, il faut aller jusqu'au bout de ses études médicales, qui est quand même un long parcours. Donc on est à Bac plus 17, 18, je ne sais plus très bien. Parce qu'il y a la thèse à la fin, il y a la spécialité, donc une spécialité de médecine nucléaire. Il n'y a pas de spécialité d'échographie, hein. Donc j'ai fait la spécialité de médecine nucléaire. Et donc, J'ai passé mon agrégation de médecine en même temps que pratiquement j'ai été nommé chef de service puisque j'ai succédé à mon ancienne patronne qui s'appelait Madame Plagnol, qui était une femme remarquable, avec laquelle j'étais arrivé à Tours en 68. Et donc, elle a créé elle-même le laboratoire de biophysique médicale et le laboratoire d'exploration fonctionnelle qui est devenu ensuite le laboratoire de médecine nucléaire et ultrasons au CHU. Et de là, on a pu créer 3 services, en fait, hospital universitaire au CHU de Tours.
Si ma mémoire est bonne, tu as aussi une expérience avec la notion d'aérospatiale.
Alors après, on a commencé comme je l'ai dit tout à l'heure, on faisait de l'échographie à balayage manuel, ce qui, évidemment, pour des jeunes ingénieurs comme moi, c'était vraiment minable. On me disait, mais pourquoi on fait ça à la main? On peut peut-être faire un balayage électronique. Et c'est comme ça qu'on a développé des barrettes, des missions réception d'ultrasons pour faire l'échographie avec balayage sur une barrette linéaire et ensuite une barrette courbe. Donc c'était les premiers appareils d'échographie rapide. Donc on peut atteindre 50-100 images secondes avec ce système et qui était le premier, on était parmi les premiers au monde. Il y a un Hollandais qui est à peu près dans les mêmes délais, donc on n'a jamais su qui était le premier réellement, donc on a dit on est ex-aequo. Et donc en 73, on a pu avoir les premiers appareils à l'hôpital, les premiers expérimentales d'imagerie instantanée, comme on les connaît actuellement avec des sondes, comme on les connaît actuellement. Et de là, on a essayé de commercialiser cet appareil par l'intermédiaire de la Compagnie Générale de Radiologie. Ça n'a pas très bien marché parce qu'il n'était pas très favorable au développement d'appareillage français. Il préférait acheter du matériel étranger et le revendre sous des couleurs françaises. Enfin bon. Donc il y a eu une espèce de situation instable. Donc j'ai pu sauver toute la partie capteur. Donc on a pu créer une société qui s'appelait Vermont pour commercialiser les sondes d'échographie, et puis en même temps, les appareils qu'on faisait étaient de plus en plus performants, et le CNES m'avait demandé si on pouvait mesurer la circulation dans le cerveau des astronautes pendant les sorties extravéhiculaires, qui étaient à l'époque, tout début, c'était surtout les soviétiques qui étaient les demandeurs. Donc j'ai fait une conférence là-dessus en 75, montrant un petit peu ce qu'on pouvait faire, mais bon, c'est resté sans effet, si je puis dire, momentanément. Mais quand il y a eu le vol de Jean-Luc Chrétien, qui était programmé pour 82, donc il a fallu, vers 78, commencer à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on emmenait avec Jean-Luc Chrétien. Et donc le CNES s'est rapproché de nous pour développer un appareil d'échographie Doppler pour explorer à la fois le cœur et la circulation. Donc c'était le premier appareil d'échographie Doppler qui ait jamais volé dans une station orbitale. Très fier. Voilà un petit peu les débuts. Et puis ensuite, évidemment, on a participé au vol de Patrick Baudry, de Jean-Luc, de Claudie Aigneret, enfin, tous les astronautes qui ont volé, emmené du matériel.
Tous ces grands noms d'astronautes français.
Et donc, on a, à la lumière des premiers résultats, parce que le premier appareil est resté dans la station Salyut 7, qui était la station dans laquelle est arrivé Jean-Luc Chrétien, soviétique. Et puis ensuite, donc, on savait qu'il y avait cette station, elle est disparaître, et qu'il y aurait une nouvelle station qui s'appelait la station Mir qui allait apparaître vers 85-86. Donc on a développé un nouvel échographe Doppler qui s'appelait As de cœur et qui a volé pendant 10 ans, qui est resté pendant 10 ans dans la station Mir et qui a participé, donc a permis d'explorer plein d'astronautes pendant tous ces vols, dont Claudie Aigneret, tous les astronautes français pratiquement qui ont volé sur Mir ont utilisé cet appareil.
Donc une belle fierté.
Une belle fierté, oui, parce qu'en plus derrière, donc, ça a permis d'accélérer un petit peu le transfert technologie et de créer de nouvelles entreprises à partir de là. Donc il y avait pour les capteurs et l'échographie. Après, on a pu réaliser des appareils beaucoup plus sophistiqués pour l'échographie de la peau, pour l'échographie aussi pour le transfert de molécules à travers la peau par ultrasons. Et le dernier en date, c'est donc on a la 7e création d'entreprise. S'intéresse à tout ce qui est viscoélasticité, mesure de viscoélasticité instantanée dans les matériaux par ultrasons. Voilà. Donc, c'est une étape. Alors, donc, ça a pu créer, je pense, au total, si on totalise tout, dans les 300 à 350 emplois directs, plus évidemment tout ce qui est retombé à côté, puisqu'il y a des sous-traitants, etc. Donc, Vermont, c'est plus de 200 d'employés. Vermont, une partie de Vermont est partie à Besançon, il s'appelle Imassonnier, qui sont à peu près autour de 200 employés. Après, il y a Spin Control pour l'échographie de la peau, qui est autour de 50-60 employés, etc. Enfin bon, je ne vais pas tous les lister, mais enfin, c'est une belle démonstration de ce que peut faire la relation industrie-recherche ou recherche-industrie, qui est encore très décriée et qui fait que dans beaucoup de domaines, ça ne peut pas se développer parce qu'il y a un a priori négatif pour tous ceux qui veulent bien travailler avec le privé en étant universitaire ou dans des équipes de recherche d'une façon générale. En gros, c'est ça.
Voilà. Donc, une vie bien remplie. Donc, oui. Heureux retraité depuis un certain nombre d'années. Ouais. Alors, à quoi occupes-tu tes journées maintenant? As-tu des passions, des engagements dans des associations?
Bien, quand on a parlé tout à l'heure de Madame Plagnol, mon chef de service, et donc quand cette dame est partie à la retraite, elle s'est réfugiée, entre guillemets, dans son château à côté de Loches. Et donc, on a continué à collaborer beaucoup ensemble. Elle écrit des poèmes, elle faisait des conférences. Et puis, à un moment donné, donc, s'est posé la question de ce qu'allait se passer quand elle allait décéder, puisqu'elle n'avait pas de descendants. Et donc, on a créé une fondation, qui s'appelle la Fondation Thérèse et René Plagnol, pour l'étude du cerveau. Donc, il permet de financer des recherches dans le domaine de l'exploration du système nerveux. Et donc, cette fondation a bénéficié de tous les biens de Madame Plagnol à son décès. Donc la création a eu lieu en 85. C'est assez long comme processus, hein, parce qu'il faut déjà... Enfin, à l'époque, je ne sais pas combien c'est maintenant, mais il faut trouver plus d'un million d'euros qu'on met en banque, si je puis dire, et qui, normalement, c'est un petit peu là-dessus qu'on va récupérer un petit peu d'argent en plaçant ce fonds. Et donc, il permet d'assurer qu'au moins pendant 20 à 30 ans, une fondation de recherche puisse subsister. Après, il faut trouver évidemment des gens avec lesquels on travaille pour essayer de ramener un petit peu d'argent dans la caisse. Et donc, Madame Plagnol a voulu absolument que tous ses biens reviennent à la fondation. Donc, j'en suis le fondateur avec elle et ensuite le trésorier. C'est une lourde charge parce qu'il faut s'occuper. En plus j'étais son exécuteur testamentaire. Bon, tout ça est assez compliqué parce qu'il y a un château, il y a des terres, il y a des immeubles. Donc, il faut gérer ça. C'est un parc. Et on ne vend pas un château comme ça du jour au lendemain. Donc, je me suis trouvé à aller régulièrement avec mon épouse coucher au château pour la nuit pour éviter qu'il y ait des mauvaises surprises. Voilà, donc, je m'occupe beaucoup avec cette fondation qui est importante. Et puis, sinon, je fais beaucoup de conférences. J'en suis à la 30e conférence à peu près depuis que je suis à la retraite, donc sur des sujets assez variés qui vont de la vie dans l'espace, les carnets de mon père pendant la guerre de 14-18, la beauté des choses, c'est-à-dire les fractales, les nombres d'or, etc. Aujourd'hui, ça va être des sujets qui sont un peu les débuts de la TSF. Enfin, moi, j'essaie d'explorer plein de domaines qui me passionnent, parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Donc, dès que je peux creuser un domaine, j'essaie après de le proposer en conférence pour que les autres en profitent. C'est un petit peu ça.
Et moi, ton savoir.
Ça me permet d'apprendre. Sinon, je fais partie de pas mal de clubs services qui permettent de glaner un peu d'argent également pour la recherche.
Très bien. Eh bien, Léandre, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
Merci. Cité Radio.